France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le rapport 2025 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme alerte une fois encore. Le racisme reste profondément enraciné en France, dans les actes, dans les discriminations ordinaires, dans les discours de haine en ligne et dans la vie réelle. Alors face à cette réalité, la question du langage devient cruciale. Peut-on lutter efficacement contre le racisme sans nommer les catégories qu'il mobilise? Et comment parler de race sans reconduire les logiques que l'on cherche à combattre? Pour nous éclairer ce soir sur ce vaste sujet, important sujet, un invité, Michael Hardiman. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, enseignant en philosophie à l'Université de Californie à San Diego. Vous travaillez notamment sur les théories critiques de la race. Votre livre est sorti initialement en 2017. Il sera accessible en France et en français dès le mois de septembre prochain et il s'intitule Repenser la race. Je remercie par ailleurs Robert Wolfenstein pour l'interprétation de cet échange et remercie également Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes le directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1 et vous m'accompagnez comme chaque mercredi dans cette discussion. Bienvenue à tous dans la seconde partie de Questions du soir.
Il y a une tendance depuis 30 ans qu'on observe qui est plutôt un progrès de la tolérance. Elle reste à un niveau historiquement pas trop mal, mais la baisse est très nette, surtout cette année et là, depuis deux ans. Ouais. Donc si on a la courbe, vous verrez qu'on a eu deux années où il y a eu une polarisation extrême autour des questions d'asile et d'immigration, avec une rhétorique qui est une rhétorique de l'extrême droite qui a aussi disséminé dans d'autres sphères politiques, autour de l'ensauvagement, l'immigrationnisme, il n'y a plus personne pour parler de migrants de manière positive. Il ne faut pas croire que la question de la xénophobie ne va pas faire contagion, faire tâche d'huile sur d'autres catégories. Aujourd'hui, on a une situation où les Français issus de l'immigration sont vus comme des Français, pas comme les autres. Je reprends ce terme-là. Ça a doublé en un an. Et on a, dans le même temps, le préjugé antisémite, hein, qui est la double allégeance, qui a augmenté de 7 points. C'est énorme comme augmentation.
Magali Lafourcade, magistrate et qui est la secrétaire générale justement de cette commission nationale consultative des droits de l'homme qui vient de mettre un rapport important en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle avance? Le racisme, c'est d'abord et avant tout une tache d'huile. Ça part sur une population circonscrite, ça agit en termes de xénophobe et puis ensuite, cela s'étend au fil des mois, au fil des années.
Oh, that sounds absolutely right.
Tout à fait, c'est mon appréciation. C'est un problème réel, très grave, que l'on voit d'ailleurs aussi bien aux États-Unis que apparemment ici en France. Je dois souligner qu'en tant qu'Américain, je suis quand même assez impressionné de voir que la France est disposée à appeler les choses par leur nom, à en parler, alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui apparaîtrait dans le cadre de la diversité, équité et inclusion.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire qu'aux États-Unis, il n'existe pas, comme on vient de l'entendre, des rapports officiels sur le racisme, sur l'état du racisme? On connaît pourtant nombre d'études universitaires, notamment, hein, mais qui pointent régulièrement, à travers des disciplines multiples, ce problème massif, structurel du racisme aux États-Unis. Qu'est-ce qui est différent alors?
Ce qui est différent, je pense que actuellement, le gouvernement, l'administration actuelle aux États-Unis, la donne a changé.
C'est cela qui a changé. Julien Bisson.
Oui, le rapport de la CNDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, met quand même en avant une notion encore peu connue en France, la charge raciale, qui vient justement des études universitaires menées aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette charge raciale qui fait peser le racisme au quotidien sur les personnes concernées?
Racial burden. La charge raciale. Not familiar with the expression. Alors, c'est la charge que l'on porte lorsqu'on souffre du racisme.
So, sure.
Alors, évidemment, Si l'on est une personne de couleur aux États-Unis, on se heurte à toutes formes d'hostilité, toute une incompréhension de l'autre souvent. On se heurte évidemment à des formes de discrimination constante. C'est un problème qui se pose de manière constante.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un racisme systémique, voire un racisme d'État aux États-Unis ?
Alors, ce que je dirais, c'est que oui, il y a un racisme systémique aux États-Unis. Il y en a différentes formes de racisme. D'abord, le racisme dans l'attitude, l'hostilité, la haine de l'autre, justement basée sur la race, mais il y a également des formes de racisme systémique qui permet au racisme de se perpétuer sans hostilité personnelle, à la limite. Vous avez des gens qui, inconsciemment, sont racistes dans leurs actes.
On a eu un débat en France, très très récemment, Michael Hardimon. C'est un débat régulier qui refait surface d'une façon régulière autour d'un mot, d'un terme, d'une expression, le terme d'islamophobie. Je voudrais à ce sujet vous faire entendre la voix du ministre de l'Intérieur français. Il s'appelle Bruno Retailleau. Il nous explique avec des arguments justement pourquoi il n'emploie pas, lui, ce terme d'islamophobie.
Ça fait plusieurs années que je suis très sensible à la sémantique utilisée précisément par les frères musulmans. Et je n'utilise, et le ministère n'utilise jamais le terme d'islamophobie, mais d'acte anti-musulman. La différence entre l'acte anti-musulman et l'islamophobie, c'est que, d'ailleurs, quelqu'un en parlerait beaucoup mieux que moi, c'est Salman Rushdie. Il a montré comment les frères musulmans, pour interdire toute critique de l'islam, toute religion est critiquable. Que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion juive, etc. C'est contraire aux objectifs, aux valeurs des démocraties. Mais quand le Premier ministre en a parlé, il pensait pas à mal. C'est simplement sous le coup de l'émotion qu'il a voulu indiquer qu'il y avait ce lien et que c'était un acte anti-musulman.
Alors, deux questions, Michael Hardimon. La première, aux États-Unis, comment est-ce que ce terme-là d'islamophobie est employé, est utilisé, et est-ce qu'il crée aussi, peut-être comme chez nous, des polémiques nombreuses ?
Alors oui, l'expression islamophobie est utilisée aux États-Unis. C'est un terme qui est largement accepté parmi dans les milieux progressistes, antiracistes. Ce terme est convenu. Pour autant, lorsque on parle d'islamophobie, ce n'est pas associé à la critique de la religion de l'islam. Ce terme recouvre le préjugé contre l'islam, contre les musulmans, et il y a d'ailleurs une tendance à racialiser les musulmans comme s'ils étaient différents sur le plan racial, justement.
Qu'est-ce que vous pensez justement de la distinction qui est faite par le ministre de l'Intérieur qui préférait que l'on utilise le terme, l'expression anti-musulman pour pointer justement le racisme à l'encontre des personnes musulmanes. Est-ce qu'il vaut mieux, selon vous, pointer les faits sur les personnes ? Qu'est-ce que le terme même d'islamophobie apporte par rapport à ce terme-là d'anti-musulman ? Est-ce que vous le trouvez plus efficace ou plus juste scientifiquement ou tout autre chose ?
Je pense que le terme est exact et il est scientifique en quelque sorte, puisque c'est un petit peu comme le terme d'homophobie qui se réfère en fait à la haine des homosexuels. Enfin, c'est une forme de haine à l'encontre de quelqu'un qui est différent. Là, en l'occurrence, l'homophobie, c'est contre les homosexuels ou également plus généralement les bisexuels ou les transgenres. Je m'étonne de voir que ce terme puisse poser problème.
Julien Bisson.
Revenons maintenant aux constructions théoriques du racisme et des théories raciales que vous discutez dans votre essai. Peut-être avant de voir les différents concepts qu'on peut appliquer à la race et au racisme, est-ce que le racisme est en soi une constante anthropologique ? Est-ce qu'on le retrouve au sein de toute la société ? Ou est-ce qu'il est toujours finalement culturellement situé, construit culturellement ?
Je ne pense pas que le racisme soit une constante universelle. La xénophobie, oui. La xénophobie est une constante, mais lorsque la xénophobie est racialisée, c'est à travers un concept racial, et ce concept-là est un concept qui a son histoire.
Alors, il faut peut-être préciser la différence, justement, entre xénophobie et racisme. C'est Albert Memmi qui expliquait que la xénophobie, c'est la peur de l'autre. Comment est-ce que vous distinguez cette peur de l'autre, dite xénophobie, du racisme, justement ?
Alors, la xénophobie pourrait s'entendre sous une forme de racisme. C'est-à-dire que pour moi, la xénophobie, c'est une hostilité généralisée à l'encontre de tout ce qui est considéré comme étranger parce que l'autre est étranger. Et là, le racisme peut être interprété d'autres façons. Enfin, c'est peut-être une sous-catégorie de xénophobie.
Alors, entrons dans le livre, Julien Bisson, avec vous. Entrons dans la théorie que vous proposez, Michael Hardiman. Plongeons justement dans ce concept de race.
Oui, vous expliquez qu'il y a un malaise avec le mot race, parce que c'est un terme qui est utilisé par ceux qui légitiment la hiérarchie entre les races, et vous entreprenez l'idée de sortir de cette ambiguïté en avançant plusieurs concepts pour penser le racisme sans forcément essentialiser les populations. On peut peut-être essayer de parler de ces différents concepts. Peut-être le premier, celui qui revient à la définition sans doute la plus banale du racisme, qui est le concept racialiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, ce que j'appelle racialisme, c'est la doctrine selon laquelle les espèces humaines sont divisées en groupes et entrent dans certaines catégories morales, physiques, intellectuelles, enfin avec ces caractéristiques, et qui sont propres donc chacune à ce groupe donc racial. Le racialisme pose une connexion systématique entre les aspects physiques, c'est-à-dire la couleur de peau, la forme des lèvres ou du nez ou que sais-je, liées à des aspects intellectuels ou culturels. Et là, ce que l'on suppose qu'il y a une structure ou une essence biologique qui expliquerait donc cette corrélation, à telle enseigne que si vous avez une certaine couleur de peau, automatiquement, on peut en dire des choses sur votre intelligence, en déduire des choses sur votre intelligence. Et les éléments plus subtil du racialisme consiste à pouvoir classer les choses de sorte que les races, on peut les classer selon leur infériorité ou supériorité en fonction de caractéristiques morales ou culturelles qui sont censées être essentielles justement aux membres de cette race, donc cette essentialisation et donc cette corrélation avec les aspects physiques.
Alors on va avancer pas à pas car c'est une pensée entonnoir que vous dessinez dans cet ouvrage. Après ça, qu'est-ce que le concept minimaliste de race ? Là aussi, c'est un concept général que vous suggérez, que vous mettez en lumière. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Le concept minimaliste de la race, c'est un concept qui est déflationniste. L'idée étant de permettre de dégager du concept racial les espèces les plus perverses. Dans cette démarche minimaliste, on dit que certes, si l'on vient de différents endroits, on peut avoir des apparences différentes. C'est-à-dire qu'on voit des différences physiques visibles qui correspondent, ma foi, à des généalogie, à une histoire de ce groupe racial. Mais enfin, il n'y a aucune autre implication par rapport aux aspects culturels ou autres, ou humains. Hein, c'est quelque chose, donc, minimaliste, parce qu'on s'en tient vraiment à l'aspect justement minimum de l'apparence physique, sans prendre aucun des autres attributs des théories raciales. Et c'est une approche, disons, biologique qui n'est pas raciste du tout, parce que tout ce que l'on fait, c'est simplement de reconnaître que oui, effectivement, il y a certains aspects que l'on peut facilement reconnaître et qu'on ne peut pas nier. Bien évidemment, les gens qui viennent de différentes régions, de différents continents, de sous-continents, auront tendance à avoir des apparences. Alors, ces différences, certes, sont superficielles, ça ne va pas plus loin, et ça n'est pas à partir de là qu'on puisse faire des distinctions entre les membres d'une race et les membres d'une autre. C'est donc une approche remarquablement vague qui ne s'en tient qu'aux différences superficielles.
Étape suivante, Julien Bisson.
Alors, en quoi ce concept minimaliste de race se distingue du concept suivant dans votre démonstration, qui est le concept populationnel de race ?
Alors, la différence, si je puis dire, c'est que le contenu ou l'intention de ces concepts ne sont pas les mêmes. Le concept populationnel se définit en termes d'aspects phénotypiques qui sont transmis génétiquement et qui correspondent à des différences d'origine géographique. Vous avez des groupes de populations qui remontent donc à certaines lignées biologiques et qui arrivent à une population fondatrice. Cette population fondatrice se distingue par ses séparations ou son origine géographique et également une culture de reproduction limitée ou en tout cas concise. Alors, le concept minimaliste ne fait pas la même chose. Le concept minimaliste, lui, s'approche du concept assez ordinaire qui consiste à dire que on enlève tous les autres préjugés pour s'en tenir à la surface. Pour autant, les deux concepts se rejoignent un petit peu dans la mesure où on s'intéresse au même groupe de personnes, c'est-à-dire que la race d'une population est un constat minimaliste et vice-versa. Vous avez finalement une bijection entre les deux, si vous voulez. Mais cette race, enfin, ce concept populationnel peut vous permet de savoir s'il y a, disons, un sous-jacent scientifique à la notion de race.
Je voudrais vous faire entendre une voix, Michael Hardiman, avant d'en venir au concept central de votre ouvrage, qui est la race sociale, la race telle qu'elle a été réaccaparée justement par les sciences sociales, par certains mouvements militants également. Je voudrais vous faire entendre la voix de Pierre Vermeeren. C'est un professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb. Il était l'invité de Questions du Soir et il a eu cette formule justement à propos de la race.
On leur explique qu'aujourd'hui, il ne faut pas passer les concours, que les disciplines, tout ça, c'est fini, qu'ils vont adhérer à des studies, que ces studies vont leur former leur avenir. On va former des spécialistes du genre ou de la race. Bon, je précise qu'entre parenthèses, on m'a élevé toute ma formation dans l'idée que la race avait été définitivement discréditée par Hitler. Je vois qu'elle revient par la fenêtre parce qu'on se prend pour des Américains. Très bien, acceptons-le. Mais si vous voulez, voilà, la position de l'homme ordinaire, elle a une certaine cohérence et elle aboutit à le fait qu'aujourd'hui, on a 2 millions d'étudiants en France. Il faut s'en occuper dans les meilleures conditions. C'est loin d'être le cas.
La race revient par la fenêtre parce qu'on se prend pour des Américains, Michael Hardiman. Alors, au-delà, j'allais dire, de l'attaque, qu'est-ce que vous pensez de cette remarque et surtout peut-être de la difficulté pour beaucoup à penser la race comme concept social ?
Attention, je ne pense pas qu'on revienne au concept racialiste du temps d'Hitler.
On est bien d'accord.
L'idée d'une race sociale, c'est un groupe social à qui on attribue une race de manière erronée. Ici, on essaye justement de montrer le côté pernicieux de ce concept racialiste, dans la mesure où ce concept lui-même subit des traitements différentiels par différents groupes sociaux. Le résultat de tout cela, c'est que vous avez une espèce de stratification sociale, une hiérarchisation selon des groupes racialisés. Donc.
Mais pour aller dans le sens, cette fois-ci, de ce que disait Pierre Vermeeren, c'est vrai que cela peut paraître particulier, difficile à comprendre, de saisir justement le cheminement de ce concept, de comprendre comment un terme, le mot race, qui a été proscrit, banni moralement, réapparaît aujourd'hui dans les sciences sociales. Comment est-ce que vous expliquez, comprenez, analysez même ce cheminement, Michael Hardiman ?
Alors, ce que j'essaie justement de faire dans mon ouvrage, avec cette distinction entre la race minimaliste, populationniste, sociale, c'est de réhabiliter en quelque sorte le concept de race, mais pas le concept racialiste, ce concept minimaliste qui nous permet de parler de race sans essentialisme, sans hiérarchisation. Et alors, bien sûr qu'on peut parler de race dans ce contexte-là, on peut parfaitement reconnaître des différences physiques qui apparaissent et, encore une fois, donc, qui sont minimalistes, enfin, superficielles. Alors, quand on parle de groupe racialisé ou de race sociale, bon, là, c'est un instrument qui permet de voir qu'il y a des hiérarchisations qui ne sont pas basées sur des explications biologiques, mais sur des explications strictement sociales, justement.
Julien Bisson.
Mais on sait que les mots peuvent être performatifs. Est-ce qu'il est possible de ne pas alimenter le racisme en reconnaissant des races biologiques, même de façon minimaliste, des races biologiques auxquelles viendraient être associés des comportements, des statistiques, du ciblage, des quotas? Comment est-ce qu'on évite de relancer une vision raciste?
Je pense qu'il est quand même possible de progresser grâce à la compréhension. Lorsque ces concepts sont précisés, éclaircis, on peut voir que ce concept minimaliste n'a rien à voir avec, ou en tout cas très différent du concept très pernicieux, racialiste de la race. Et ce serait quand même une certaine mauvaise foi de voir une confusion entre les deux. En fait, c'est ce que j'enseigne à l'université et je constate que les étudiants arrivent à faire ces distinctions. Hein, on évite le concept racialiste et on accepte cette notion minimaliste et sociale sans glisser vers tous les travers racialistes dont on a peur, justement.
Est-ce que ce que vous enseignez, justement, Michael Hardiman, à l'université, ce que vous enseignez aujourd'hui à l'université de San Diego, en Californie, est menacé parce que vous abordez des sujets complexes qui a trait aux sciences sociales, qui touche directement à la race? Est-ce que c'est menacé justement par le pouvoir actuel de Donald Trump?
Alors oui, disons que, en tout cas de manière indirecte, une menace pèse sur mon enseignement. Pas directement, c'est vrai. Et c'est à l'Université de Californie, nous pouvons poursuivre nos enseignements dans le concept de DEI, c'est-à-dire diversité, équité et inclusion. L'université préfère ne pas capituler devant des exigences qui n'ont pas encore été formulées par l'administration Trump. La question est de savoir si ce travail est menacé lui-même. Là, par contre, en général, oui, il est menacé. Et c'est ça qui fait qu'il est d'autant plus important de continuer à le maintenir tant qu'on peut.
Mais quand vous parlez de menaces indirectes, de quoi parlez-vous? Là encore, très concrètement, le système universitaire américain nous est par construction étranger, éloigné. Il faut nous expliquer justement quelle peut être l'influence de l'administration américaine sur vos programmes d'enseignement et vos programmes universitaires.
Alors, l'administration actuelle essaye d'imposer des exigences sur ce qui peut être enseigné à l'université avec comme menace la suspension du financement.
Julien Bisson.
Est-ce que le racisme, l'antiracisme aujourd'hui peut être pensé justement dans des constructions théoriques? C'est ça qui est important, c'est de repenser la race de façon théorique. Ou est-ce que ça doit se traduire par des luttes, des questions précises selon les différents racismes auxquels les gens sont confrontés?
Alors, il y a certes des combats à mener. La notion même de racisme, c'est-à-dire que lorsque vous veut présenter une notion acceptable de l'antiracisme, c'est important de le faire valoir.
Merci beaucoup, Michael Hardiman, d'être venu au micro de France Culture ce soir. Je rappelle qui vous êtes. Vous êtes enseignant en philosophie à l'Université de Californie à San Diego. Vous travaillez, on l'aura compris, sur les théories critiques de la race. Et l'on recommande votre livre, initialement sorti en 2017, avec ce titre américain, Rethinking Race, et traduit en français. Il paraîtra justement dans les semaines qui viennent, au mois d'octobre, Repenser la race. Qu'est-ce que l'on trouve, Julien Bisson, dans l'hebdomadaire Le 1 cette semaine?
Eh bien, un entretien fleuve avec l'homme politique le plus rejeté de France, selon l'Institut Ipsos, Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique ce pourquoi il se bat encore aujourd'hui, pourquoi il est diabolisé, et il essaie de répondre aux questions, aux reproches qui lui sont faits.
Je remercie par ailleurs Robert Wolfenstein pour l'interprétation de cet échange, et un merci très très chaleureux pour le travail quotidien effectué toute l'année par l'équipe formidable de Questions du Soir. Je donne leur nom, ils sont derrière et ils comptent tout autant. Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy, Fanny Richer, Pascaline Bonnet, Bertie Bourdon, Roxane Poulain, Rodi Eken, à la réalisation François Richer. Et c'était ce soir aux manettes à la technique, Grégory Wallon. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Questions du Soir.